Cap Cap Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap thématique avec le délégué du Défenseur des droits, Bernard Gallo. Bonjour Bernard Gallo.
Bonjour.
Et bonjour Anne-Marie Vignol de l'équipe d'Esprit Occitanie qui a initié cette rencontre et qui va co-animer cette émission avec moi et je l'en remercie pour cela. Alors Bernard Gallo, le défenseur des droits, veille au respect des droits et libertés, c'est l'article 71-1 de la Constitution, n'est-ce pas ? Donc le défenseur des droits a été créé, et c'est pas si vieux que ça, à l'occasion de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, et son existence, et c'est très important, est consacrée par l'article 71-1. Que je viens de vous lire de la Constitution, et après toutes ces attributions et modalités d'intervention sont précisées par une loi organique et une loi ordinaire dont je vous ferai grâce des numéros, bien sûr. Et ça, cette idée de création des défenseurs des droits répondait à la volonté de l'État qui voulait simplifier les dispositifs institutionnels de protection des droits, de liberté. Et alors, on avait d'autres autorités, on en avait quatre en réalité, que l'on a regroupé sous une même casquette, le médiateur de la République, le défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie et de la sécurité et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui est un peu plus connu et qu'on a appelé la HALD. Voilà, et puis il y a une cinquième mission qui est venue se rajouter, mais ça, on va y revenir. C'est préparé. Hein. L'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Voilà. Donc, lorsque j'aurais dit que c'est une autorité administrative indépendante, article 2 de la loi organique de 2011, le défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante, ne reçoit dans l'exercice de ses attributions aucune instruction. On mesurera quand même la liberté et l'importance du poste, un poste qui est désigné par le président de la République, un mandat de 6 ans non renouvelable. Et nous avons eu 3 défenseurs des droits, Dominique Baudis, bien connu à Toulouse, Jacques Toubon, qui a fait une prestation assez surprenante parce que, effectivement, il est sorti un peu, mais vous nous le préciserez, Bernard Gallo, il est sorti de son cadre idéologique habituel, si je puis dire, je ne sais pas s'il apprécierait ma formule. Et puis, depuis le 22 juillet 2020, une dame, Claire Hédon, bien connue des lecteurs, dont je fais partie, assidue du Canard Enchaîné, qui s'est retrouvée, ce qui est assez curieux comme parcours, mais certainement très riche. On s'est retrouvé avec Claire Hédon, qui est là donc pour 6 ans aujourd'hui, avec qui vous travaillez, Bernard Gallo. Le défenseur des droits, n'est pas tout seul. Hein. Il y a 250 agents, je crois 500 bénévoles dont vous faites partie. Vous allez nous expliquer comment on arrive à devenir bénévole et justement pourquoi ce choix. Alors en plus, c'est une fonction extrêmement importante, surtout par les temps qui courent. Très curieusement, moi, ça me gêne un peu quelque part. Vous êtes bénévole, oui. Comme les magistrats, par exemple, du commerce. On n'est pas loin du tribunal de commerce, je le rappelle souvent. Voilà, ils sont aussi bénévoles et ils rendent des services éminents à la justice, à la société, à la nation. Quelque part, moi, ça me gêne toujours un peu, mais j'imagine que vous acceptez ce bénévolat.
Oui. Même si on peut indiquer tout de même, il y a une indemnité. Donc nous recevons tous les mois, magnanimement, 404 euros qui nous permettent de rembourser nos frais de roue, de téléphone, puisque...
C'est pour ça que vous êtes arrivé avec voiture et chauffeur, voilà, au studio, je l'ai compris.
Vous l'avez remarqué. Donc, c'est du bénévolat. Alors, c'est du bénévolat, avec tout de même des impératifs, puisque on signe une charte, on s'engage à respecter donc cette charte, c'est-à-dire en tenant au moins une permanence une fois par semaine, donc en recevant, donc on en parlera tout à l'heure, dans des lieux appropriés. Également, on est présent donc lors de collégiales, de rencontres entre les délégués des différents départements, 2-3 fois par an, et on s'engage également à suivre des formations normalement sur la région Paris-Sud, à Paris, on fait ça à Paris.
Voilà. Comment vous êtes arrivé là? Parce que vous avez été enseignant, j'ai vu que vous étiez passé par l'Afrique, la Côte d'Ivoire, Abidjan, Sassandra, je ne sais pas, où est Sassandra?
À côté de San Pedro, c'est un port,
d'accord.
Magnifique, plage magnifique. J'arrive encore, la nuit.
Écoutez, maintenant, vous rêvez moins, parce que défendre les droits, c'est quand même quelque chose d'assez aride.
Oui, c'est sûr.
Et surtout, j'imagine, mais vous nous le direz tout à l'heure, vous êtes confronté à des situations qui, parfois, doivent vous empêcher un peu de dormir. Oui. Vous êtes passé par la CEDIC aussi, Pôle emploi, donc vous avez déjà un peu abordé la difficulté humaine. J'imagine que ça vous a aidé. Vous avez été délégué du médiateur de la République, et puis défenseur des droits aujourd'hui. Pourquoi ce choix? C'est pour occuper une retraite ou c'est par souci, par occuper une mission de service public, peut-être de remplir une mission de service public?
Oui, il y a les deux à la fois en fait, puisque quand j'ai quitté Pôle emploi, donc mon accord avec mon employeur, puisque j'arrivais à 59 ans, j'étais un petit peu usé par ces fonctions, puisque j'avais été longtemps directeur départemental dans le Tarn, après j'ai fait de l'audit, après j'ai fait de la qualité, donc...
Donc c'est un homme usé qui se présente devant nous aujourd'hui.
Voilà, tout à fait, puisque...
Vous me paraissez quand même assez frais.
Mais quand j'ai... Merci, c'est gentil. Quand j'ai quitté Pôle emploi, puisque j'ai quitté la CEDIC au moment où il y avait le mariage entre la NPE et la CEDIC. Donc, quand j'ai quitté, j'appartenais à Pôle emploi. Voilà. Alors, c'est pas par hasard, puisque j'avais des liens avec pas mal de personnes de la NPE, l'Agence nationale pour l'emploi, dont Jacqueline Morin, si tu m'entends Jacqueline, bonjour, qui travaillait donc à la NPE et qui était déléguée du médiateur de la République. Voilà. Donc, elle m'a dit que ça t'intéresse. Donc, comme je la connaissais bien, comme en plus donc on avait les mêmes idées un petit peu, donc elle m'a vanté le produit, en fait, entre guillemets, ça m'a plu, donc j'ai postulé, en sachant que c'était en 2010, il y avait plusieurs candidats, puisque à l'époque c'était un poste qui était très recherché. Et donc j'ai postulé et j'étais reçu donc parmi 5 autres candidats. Alors, il faut savoir que, rapidement pour la petite histoire, c'est qu'on recrutait à l'époque, le médiateur appelé répliquait essentiellement des militaires, la police, la gendarmerie, donc, et moi je venais d'un milieu social, donc style ascédic, donc j'étais pas favori, donc je suis parti un petit peu à l'aventure à Paris, j'étais reçu par le directeur des services, à qui j'ai dû plaire, puisqu'il m'a recruté sur les 5, voilà, donc...
Je ne sais pas si les policiers ou les militaires sont le mieux placés pour défendre les droits, mais autant que d'autres,
parmi nous, il y en a encore,
certainement, mais pas plus que d'autres.
Tout à fait, donc je crois que j'étais le marqueur, cette évolution, en fait. Et depuis, enfin on en parlera tout à l'heure si vous voulez, mais depuis, le recrutement se fait tout azimut, quoi. C'est pas uniquement ciblé sur certains métiers, voilà. Donc, et effectivement, quand j'étais confronté, donc quand je suis revenu sur le terrain, quand j'étais nommé, j'étais entouré de militaires ou de paramilitaires, donc, et l'animateur qui m'a conduit, c'était un général 4 étoiles, voilà.
Oui, on en met partout, même pour refaire Notre-Dame. J'ai vu que
absolument.
Monsieur Macron, qui n'est jamais en manque d'une idée, enfin la qualifier d'originale pour être gentil, un militaire là où nous avons d'excellents architectes.
Je n'aurai pas de remarques.
Non, on ne va pas commenter. Vous ne pouvez pas commenter d'ailleurs
pas,
dans votre position.
Je ne le peux pas.
Je suis le seul à pouvoir me permettre quelques écarts, n'est-ce pas, Anne-Marie?
Oui,
je comprends, jamais. Parlez dans le micro, Anne-Marie, c'est mieux. Alors, donc vous êtes ce défenseur des droits. Comment ça marche? Expliquez-nous un peu le fonctionnement de la maison. Quels droits, quelles défenses, comment s'organise-t-elle, au profit de qui peut vous saisir? On veut tout savoir. On entend souvent parler du défenseur des droits, mais on va le voir, vous allez nous expliquer. Il y a une palette d'attributions et de moyens extrêmement large. Et j'ai pas l'impression, mais vous allez peut-être me démentir, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens vous utilisent. J'ai connu assez peu de gens qui m'ont dit j'ai saisi le défenseur des droits. Moi, j'en ai orienté vers le défenseur des droits parce que j'ai porté la robe un certain nombre d'années et j'estimais qu'il y a des moments où on ne pouvait pas aller plus loin. Par contre, le défenseur des droits pouvait prendre un relais utile. Alors, est-ce que vous êtes noyé sous les dossiers? Est-ce que vous êtes souvent saisi ou pas?
Souvent saisi, oui, puisque je reçois en moyenne, alors je parle pour moi, 300 dossiers par an à peu près, je traite. Bon, Ça, c'est ce dossier que je traite. En plus, il y a le côté information. C'est-à-dire, certaines personnes viennent me voir, leur dossier ne me concerne pas totalement, donc par contre, je les oriente vers d'autres organismes duquel ils relèvent. Mais c'est vrai que toutes mes permanences sont pleines. Donc, mes collègues aussi. Donc, nous sommes 12 sur l'Haute-Garonne, 12 ou 13, peu importe, mais nos permanences sont occupées régulièrement. Donc, oui, il y a une demande. Mais c'est vrai que on n'est pas toujours très connu, puisqu'il y a eu le médiateur de la République, il y a eu la HALDE. Donc, le changement, même s'il a eu lieu en 2011, il a du mal à se mettre. Une anecdote, j'ai discuté hier avec mon médecin, qui m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit qu'il ne connaissait pas. Pourtant, c'est quelqu'un qui devrait
être... Un médecin.
Voilà, tout de même. Bah, il ignorait...
Ils sont très occupés, les médecins.
Ce qu'elle m'a dit.
Ils ont peut-être peu de temps à consacrer quand on voit le rythme de travail qu'ils ont. Anne-Marie.
Oui.
Qui lève le doigt comme à l'école. Vous avez raison,
bon
Marie, parce qu'il faut m'interrompre. Hein, sinon.
Oui. Bon élève.
Oui. Oui. Non, Bernard, vous venez d'évoquer la complexité de vos interventions et surtout la variété des domaines sur lesquels vous êtes amené à intervenir. Un maquis législatif qui s'entremêle. Donc ma question tournerait autour des relais. Je pense qu'il est essentiel pour vous d'avoir des relais dans les diverses structures. Dans lesquels vous êtes amené à intervenir. Est-ce que vous en avez de ces relais?
Oui, bien sûr.
Quel est leur niveau de délégation? Voilà, ma question.
Oui, tout, mais la réponse, elle est très très claire, puisque hier matin, j'étais avec, nous étions avec l'animatrice, Madame Guéraud, j'étais à la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, pour rencontrer la direction, justement, parce que nous avions depuis longtemps des échanges, mais par mail ou par courrier, nous ne nous connaissions pas. Et donc hier, ça a été l'occasion de rencontrer l'équipe de direction, donc effectivement, avec les 06, les mails pour communiquer directement. Au lieu de passer par courrier, ce qui est long et compliqué, vous pouvez intervenir directement auprès de la direction.
Donc, alors,
c'est un exemple, mais il y en a d'autres.
Le domaine de compétences, vers quoi, vers qui, se passe?
Oui, en fait, je parle en local, en tant que défenseur délégué.
On peut le parler en général, déjà, le défenseur des droits.
Il faut nuancer. Les délégués du défenseur des droits n'ont qu'un seul pouvoir, celui de la médiation, du règlement amiable.
On va partir du général et on va descendre vers le particulier, comme on disait autrefois,
d'accord,
De Gaulle était au pouvoir. Le domaine de compétence de l'institution, quel est-il?
Oui, par contre, il est beaucoup plus élevé dans ce cas-là, puisque le défenseur des droits, quand je dis le défenseur des droits, je veux dire la Madame Claire Hédon, ainsi que les juristes du siège, donc assermentés, donc ce que les délégués ne sont pas. Voilà. Donc eux, ils ont le pouvoir de contrainte, effectivement, ils peuvent transmettre le rapport auprès des tribunaux, donc faire des rapports détaillés en prenant position, demander des rendez-vous, donc, et si l'intéressé ne se rende pas au rendez-vous, possibilité de...
Ça veut dire qu'ils ont des moyens d'enquête et d'action?
Tout à fait.
Et leur indépendance est sanctifiée par l'inscription dans la Constitution, comme je le rappelais en démarrant cette émission. Alors, les domaines de compétences, globalement, c'est protection des droits et des libertés. Donc,
c'est
tous les gens qui estiment que leurs droits ont été violés, bafoués, ou que leur liberté est restreinte. Il y a la promotion de l'égalité. Il faudra peut-être que vous nous expliquiez un peu ce qu'on entend par là. Et l'accès aux droits, la discrimination... Le respect de la déontologie pour ce qui est des forces un peu répressives, gendarmerie et police, voire les agents de sécurité privée, gens qui ont un code un peu éthique, dont on sait qu'ils ne le respectent bien sûr jamais, puisqu'ils l'ont même jamais lu. Et puis après,
le commentaire non plus.
Oui, c'est un peu curieux d'ailleurs ce respect de la déontologie chez les policiers, puisque vous savez qu'il y a la police des policiers. Arabie, sur lesquels il y aurait peut-être beaucoup à dire. C'est très curieux d'ailleurs, un corps qui s'auto-analyse, s'auto-gère, auto-flagelle, si je puis dire. Il y a la protection des lanceurs d'alerte et la protection de l'enfant. C'est énorme comme... Il devrait y avoir la queue devant vos...
Devant en permanence.
Donc ça veut dire que vous n'êtes pas... Si, parce que ces droits qui sont bafoués, ces gens qui viennent vous voir en disant « mon droit a été bafoué », c'est des droits de quelle nature ? Quel est votre public ?
Cette phrase-là que vous venez de prononcer, je n'ai jamais entendu de la part d'un requérant. « Mon droit a été bafoué », jamais.
Non, alors ils viennent voir pourquoi ?
Ils viennent pour se plaindre d'organismes sociaux, genre CAF, genre Pôle emploi, genre... se plaindre de la direction générale, des régionales des finances publiques, de tous ces organismes dits sociaux qui ne jouent pas leur rôle. Mais ce constat-là, c'est moi qui le fais. Eux, dans leur vision de leurs problèmes, je crois qu'ils n'ont pas conscience de cette... Par exemple, parler de cette numérisation aujourd'hui du traitement des dossiers au niveau de la CAF, de Pôle emploi, de la CPAM et d'autres... qui apporte certes des solutions d'amélioration, mais aussi qui coupe le contact avec des personnes qui n'ont pas Internet. Et il y en a beaucoup plus qu'on croit.
Est-ce que ça veut dire que votre public, ce sont des gens qui sont déçus des services publics ou qui ont du mal à comprendre leur fonctionnement, à travailler avec eux, qui sont perdus devant une complexité absolument fabuleuse. On est quelques-uns à savoir lire et écrire. Moi, je me gratte encore la tête devant certains imprimés administratifs et devant certaines réactions. On ne sait absolument pas comment ces administrations fonctionnent et les gens qui sont perdus et en demande viennent donc vous voir.
Tout à fait.
Donc vous êtes une espèce de relais.
Oui.
Et de.
Oui.
Est-ce que c'est vraiment la vocation du défenseur
des
droits ?
Oui, absolument. Ah oui, tout à fait. Enfin, pour moi, oui. Pour moi, oui. Juste un exemple que je connais bien, puisque c'est Pôle emploi. Donc, je suis issu de Pôle emploi. Donc, je continue un petit peu à m'intéresser aux directives. Donc, je suis un petit peu. Et donc, mes collègues savent que je suis aussi issu de Pôle emploi. Donc, parfois, on m'envoie des dossiers spécifiques. Et donc, sur les dossiers les personnes que je reçois, qui relèvent de Pôle emploi, qui ont des difficultés avec Pôle emploi, statistiquement, sur 10 dossiers, il y en a un ou deux qui est justifié, où la réclamation s'impose. Très souvent, c'est un manque de compréhension. C'est-à-dire que les agents de Pôle emploi n'ont pas toujours le temps d'expliquer. Alors que moi, j'ai l'avantage de temps, si vous voulez. Moi, je suis pas chronométré. Je prends le temps que je veux. Et comme je connais bien le sujet, je leur explique, et ils repartent. Si on m'avait dit ça, je ne serais pas venu vous voir.
Voilà. Ça veut dire que quand le mode de fonctionnement n'est pas basé sur la rentabilité, on arrive à sortir les dossiers,
je n'emploierai pas le mot rentabilité, mais oui, effectivement. Mais c'est une évolution pour laquelle on ne peut pas lutter, c'est clair. Cette numérisation, non, c'est compliqué. Parce qu'il y a aussi le très bon côté. Hein. Je ne porte pas de jugement, je suis l'évolution, en sachant que je vois par exemple à la CAF que Anne-Marie connaît bien, mais il y a eu de très très gros progrès au niveau communication. Mais par contre, il y a quelques personnes qui sont laissées de côté, qui ne peuvent pas suivre ou qui ne veulent pas suivre. Donc ces gens-là...
Qui n'ont pas les moyens de suivre. Internet, l'informatique... Voilà,
tout à fait.
L'âge aussi qui coupe peut-être un certain nombre de personnes de cette évolution...
Oui, mais c'est aussi... Certes, bien sûr, il y a l'âge. Mais j'ai encore reçu lundi des personnes très très jeunes qui avaient du mal à se connecter. Pourtant, ils avaient leur smartphone... ils avaient du mal à comprendre le fonctionnement. Donc, ce n'est pas uniquement personnes âgées.
Anne-Marie. Il y a la question de la fracture numérique, certes, mais il y a surtout, en tous les cas, aussi une législation très, très, très complexe. On a un empilement.
Absolument.
De lois, de règlements qui font...
Ah bah, on adore les textes, chaque ministre fait sa loi ou ses voeux ou plusieurs lois. On n'arrive plus. Alors bon, c'est un ancien avocat qui vous parle. J'avoue que si vous n'êtes pas hyper spécialisé aujourd'hui, vous ne pouvez plus assurer une défense ou un conseil de qualité.
Alors justement, vous soulevez un problème, effectivement, qui me perturbe un petit peu, c'est que je me considère comme un généraliste, comme un médecin, entre guillemets, mais généraliste parce que je ne suis pas un juriste, donc il n'y a pas pas une veille juridique évidente, donc j'essaye de voir un petit peu l'évolution juridique, mais je ne suis pas un spécialiste. Donc parfois, on a un petit peu de mal. Donc heureusement qu'on a des collègues qui sont spécialisés dans d'autres domaines, ou on peut appeler, par exemple, les juristes parisiens qui nous répondent, qui nous aident. Mais effectivement, vous avez raison, on ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Et le souci, c'est que il n'y a pas de tri en amont. Les personnes qui viennent nous voir, elles, c'est tout domaine confondu.
Donc, il y a tous les ans, il y a un rapport. Est-ce qu'il y a, on voit à travers ce rapport un peu quel est le profil des gens qui vous consultent et dont les problématiques qui agitent un peu notre société. Est-ce qu'on peut le déduire ou est-ce que c'est explicitement écrit peut-être ?
Non, c'est explicitement écrit. Donc, en gros, 80% des personnes qui viennent nous voir. Ça concerne des difficultés, je ne dis pas dysfonctionnement, hein, je dis des difficultés avec les services publics, en gros. 20% de discrimination.
Parce que quand on lit un peu le domaine de compétences, défenseur des droits, l'égalité, l'accès aux droits, les discriminations, la déontologie, sont quand même des grands mots. On se dit, ils doivent avoir des dossiers fabuleux. Ce sont des oraux, finalement. Ils montent au créneau. Ce que vous nous dites, c'est un peu plus prosaïque, quand même.
Absolument. Déjà, je vous réponds sur le problème de la déontologie. Je n'ai pas le pouvoir de traiter ces dossiers, déjà. Donc, nous avons sur l'Occitanie, nous avons deux ou trois référents. Il traite uniquement les dossiers les plus simples au niveau de la déontologie. Par contre, dès que c'est un dossier un peu plus compliqué, plus solide, le dossier est traité par la direction parisienne. Les défenseurs, les lanceurs d'alerte que vous avez évoqués tout à l'heure, c'est une mission toute récente qui date de 2016, ces dossiers-là, on ne les voit pas, c'est confidentiel. Donc, même si j'en ai reçu deux, je leur ai donné les contacts et le fonctionnement avec enveloppe bien séparée, c'est très compliqué. Donc tout ça, c'est traité par le service juridique de parisien.
Donc vous êtes un filtre.
Nous sommes un filtre.
Vous êtes un filtre et vous traitez.
Mais j'aime bien le terme de filtre.
Oui, et au niveau local, après, vous allez régler, vous l'avez dit tout à l'heure, par la médiation, c'est ça.
Tout à fait.
Vous allez essayer de régler un certain nombre de problèmes de gens qui sont perdus.
Oui.
Parce que c'est ça.
Oui. Mais c'est vrai que vous avez employé le terme Zorro, il me fait sourire. Mais il est pas tout à fait inexact. Quand même.
Quand on se dit défenseur des droits, enfin bon, moi j'ai toujours vécu avec le droit, ça me fait rêver quoi, défenseur des droits. On a l'impression que on va combattre le pouvoir, qu'on va combattre les exactions, qu'on va combattre les débordements.
Je vous rejoins. Et je crois que je n'étais pas le seul à trouver le terme défenseur des droits un petit peu difficile à assumer. Je crois qu'effectivement. J'avais cru comprendre qu'on nous prenait pour les avocats, en fait, quoi. C'est ça, quelque part. Mais j'étais pas le seul. Mais bon, depuis, le terme a fait ses... Et nous avons suivi. Mais c'est vrai qu'au début, moi, je préférais médiateur de la République. C'était beaucoup plus clair pour moi.
Anne-Marie Vignol. Dans ma tête.
Oui. Mais est-ce que vous arrivez vraiment en fin de parcours d'une personne qui s'est battue en vain pour faire valoir ses droits ou faire entendre ses récriminations? Ou est-ce que les gens viennent vous voir parce qu'ils ne connaissent pas, par exemple, l'existence de médiateurs dans les diverses structures publiques
existantes? La réponse est claire. Ils viennent nous voir en bout de course. Ouais. C'est clair. Ah, c'est flagrant. Flagrant, ça c'est clair. Je dis, vous avez vu la chaîne sociale? Oui. Vous avez écrit à la médiatrice de Pôle emploi? Oui.
D'accord.
Bernard Gallo, on fait une première pause.
Bien
vous
sûr,
qui avez choisi les pauses musicales. Léo Ferré, c'est la première avec le temps. Pourquoi?
Eh ben, je l'ai découvert il y a 30 ans et je l'écoute encore, il m'ennuie pas. C'est un des rares artistes qui a très bien vieilli, comme moi. Voilà.
Parfait. À part que vous ne chantez pas, Léo Ferré.
Non, je chante pas.
Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu. Et l'on se sent glacé dans un lit de hasard. Et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard. Et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Voilà, Léo Ferré avec le temps, un temps qui ne passe pas sur notre invité Bernard Gallo, le représentant local, un des représentants locaux du Défenseur des Droits, qui nous explique un peu comment marche cette maison, sur lequel certains fantasmes comme moi en me disant mais ce sont des oraux, et puis en réalité les problèmes que vous traitez sont réels d'abord, très importants pour la plupart des gens, mais un peu plus basiques. Finalement, vous nous disiez tout à l'heure que les gens venaient vous voir parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre avec différentes administrations. C'est quand même très grave ce que vous nous dites. Ça veut dire que les administrations ne font pas leur job, ils sont là au service des gens, ils sont là aussi pour leur renseigner, pour leur expliquer leur fonctionnement, ils ne le font pas.
Oui et non, parce qu'en fait il y a un accueil. Tous ces organismes sociaux, pardon, que vous citez, ont tous un accueil, que ce soit la Pôle Emploi, que ce soit la CAF. Mais par contre, très souvent, à ce type d'accueil, la politique veut qu'on n'y mette peut-être pas les gens les plus pas compétents, les plus formés, je veux dire. Donc,
oui, vous êtes gentil.
Oui, je respecte tous les salariés.
Moi, je voudrais intervenir quand même.
Anne-Marie.
Oui, alors Bernard Gallo cite beaucoup la CAF. Je vais expliquer un peu pourquoi, parce que je ne voudrais pas qu'on stigmatise la CAF.
Non.
Voilà, nous avons travaillé ensemble dans une autre vie lorsque j'étais médiatrice à la Caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne. Hein.
Je n'ai que des médiateurs avec moi ce matin.
Nous avons de bons souvenirs partagés.
Alors, on ne veut pas savoir.
Ah oui, oui.
Non, nous avons été efficaces, enfin, j'espère. Un petit peu. Non, ce que je voudrais dire, c'est que les personnels de ces organismes aussi se retrouvent parfois en nombre réduit. Il y a une pression extrêmement forte sur leur organisation de travail. Et ils n'ont pas toujours le temps qu'ils voudraient eux-mêmes. Ils sont extrêmement frustrés.
Le rappeler, mais mon propos n'était pas de les stigmatiser. Mon propos était juste de souligner que la qualité des services publics aujourd'hui est en baisse, elle est en baisse parce qu'on a moins de moyens, parce qu'on a moins de personnel et parce que on fait des statistiques, on fait des ratios et on applique des critères de rentabilité là où ils n'ont strictement rien à faire.
Voilà. On est bien d'accord.
Donc du coup, on se retrouve avec un tas de gens qui sont un peu laissés en marge du fonctionnement du système et que vous recueillez chez vous. Alors, je ne veux pas dire que c'est la cour des miracles, mais un peu.
Non, mais oui, c'est vrai que... comment vous dirais-je, les personnes que l'on reçoit, ce sont des gens qui sont un petit peu laissés pour compte, effectivement.
Oui, c'est des gens qui sont perdus devant une complexité administrative, peut-être aussi en raison du changement de fonctionnement, puisque le papier est de moins en moins présent et l'ordinateur de plus en plus. Donc ça veut dire que cette société dysfonctionne.
Mais c'est une évolution. Je n'irai pas jusque-là. Non. Pour moi, c'est une évolution inéluctable. Donc, mais il faut l'aménager, il faut garder ce côté humain que parfois on a tendance à oublier.
Pourquoi c'est inéluctable ? Un service public, il y a service et public dans le nom. À partir du moment où il ne rend plus le service à son public, il faillit à sa mission.
Oui, les missions sont tout de même globalement respectées. Je suis issu de Pôle emploi, je peux vous dire que... Pôle emploi, pour ne pas citer la CAF cette fois-ci. Hein.
Pôle emploi, ne parlez pas que de vos bases. Pôle emploi. Vous avez cité la Direction générale des impôts tout à l'heure, qui a été quand même pendant des années une administration où on savait quel était le nom du fonctionnaire qui vous gérait, on savait où le trouver, il y avait des jours de réception. Enfin, c'était extrêmement bien fait. On a l'impression aujourd'hui que ça dérape, que le public a du mal à s'y retrouver.
Je vais faire un peu de provocation. Est-ce que le délégué du défenseur des droits est une simple variable d'ajustement dans un système qui dysfonctionne ?
C'est très politiquement incorrect comme question, Marie.
Bon, voilà, ça n'appelle pas de réponse.
Si, ça en appelle une. Ma réponse, elle est toute simple. La Direction régionale des finances publiques me répond régulièrement. Alors que les requérants qui viennent me consulter, je ne suis pas le seul, se heurtent parfois à un mur d'incompréhension, soit téléphonique, soit par courrier, soit par mail.
Vous abordez là un peu le deuxième volet, on a vu quelles étaient vos compétences, on a vu que les grandes compétences sur les dossiers sensibles, vous faites le relais avec Paris, vous faites remonter immédiatement à Paris, parce que là on est sur des choses extrêmement techniques, voire politiquement ou juridiquement délicates. Pour autant, sur place, vous nous parliez de ces interventions auprès des administrations, mais peut-être d'autres personnes, j'imagine, d'autres institutions, voilà. Comment ça se passe ? Vous contactez les gens, vous vous posez en médiateur, en facilitateur, dirait-on, de ce très vilain mot ?
Le terme est excellent. Enfin, c'est le terme que j'emploie. Facilitateur. Je me considère comme un facilitateur. Voilà.
Donc, c'est-à-dire que vous allez rétablir un dialogue qui était rompu entre des fonctionnaires débordés et des gens qui ne savent plus à quel sens se vouer.
Tout à fait. En sachant que je représente tout de même le défenseur des droits, donc...
Est-ce que ça vous ménage un accueil un peu plus privilégié ?
Oui. Privilégié, je ne sais pas. Préférentiel, oui. Puisque il m'est arrivé récemment, en plus, de saisir un maire d'un petit village qui ne répondait pas à son administré, qui était son voisin et son ami, pratiquement. Depuis des années, il n'arrive pas à se parler. Alors qu'il se voyait pour les fêtes, pour les...
Oui, mais là, vous avez un divan dans votre bureau, non ?
On me l'a souvent dit, oui. Je crois que j'ai hérité d'un don d'écoute. Je suis un très bon écouteur, donc, et c'est parfois mon corps défendant.
C'est ce qui manque justement au public qui va à ces administrations, qui ne trouve pas cette qualité, ce degré d'écoute.
Je vais raconter un détail. Quand j'étais donc sur le site de Niel, la maison de MJD de Niel.
L'ancienne caserne, donc.
Mais non, c'est fini, il n'y a plus la caserne. Il n'y a plus la caserne. Donc, il m'arrivait de recevoir entre 4 et 8 personnes par jour. Aujourd'hui, c'est 4 au maximum, parce que j'ai pris l'habitude, ou la bonne ou la fâcheuse habitude d'écouter les gens peut-être un peu plus longtemps. Et peut-être aussi de voir au-delà du dossier qui spécifique, d'aller au-delà un petit peu. Donc oui, j'ai ce côté divin très développé. Oui, mais là, j'assume, c'est mon cas personnel, je ne parle pas au nom de mes collègues.
Comment vous rencontre-t-on et où vous rencontre-t-on?
Alors, on me rencontre sur Internet, c'est comme Tinder ou...
Si je n'ai pas Internet, parce que justement, les gens qui ne peuvent pas accéder à certaines administrations à cause du fait qu'ils n'ont pas Internet ou qu'ils ne savent pas se servir de l'outil, ils font comment?
Mais vous savez que... Vous ne savez pas, mais je peux vous dire que certains dossiers que je reçois de Pôle emploi, je connais bien le sujet, viennent des collaborateurs de Pôle emploi, qui écrivent sur un petit papier, consulter le défenseur des droits. Voilà, donc, mais... 80%, 90%, c'est par Internet.
Donc alors moi, si je veux vous voir, si j'estime qu'on me balade ou que je ne comprends pas ce qui se passe, je vais aller sur Internet ou j'ai un numéro de téléphone ou je vais prendre rendez-vous.
Oui. Voilà, vous allez sur Internet, www.défenseurdesdroits.fr. Donc vous avez le choix, soit avec une saisine donc par mail, vous saisissez directement Paris, vous pouvez le faire, ça, vous pouvez sans passer par moi. Mais par contre, il arrive très souvent que Paris, lorsque le dossier relève d'une étude locale, nous retournons le dossier. Donc, c'est du temps perdu. Voilà, donc, je dis ça clairement pour certaines personnes qui pensent que ça irait plus vite en passant par le siège. Pour moi, c'est peut-être pas fondé.
Il ne faut pas s'adresser d'abord à Dieu, mais d'abord à ses saints.
Oui, dans certains dossiers. Dans certains dossiers.
Est-ce qu'il ne serait pas adapté de développer une communication plus traditionnelle, entre guillemets, justement pour qu'elle s'adresse aussi à des personnes qui n'ont pas accès,
Yann Barry se dépliant là. Oui. Alors hier j'étais à la DRAC, donc
oui.
Voilà.
Là où est notre CPR,
qu'est-ce que c'est qu'un CPR?
C'est le chef de pôle régional, pardon Romain,
chef
je m'entends Romain,
pôle
pardon.
Régional. Que c'est beau, un chef de pôle régional.
Ils sont là.
Ah bon, bah, c'est peut-être pour ça alors que j'ai trouvé ce dépliant que je n'avais pas vu ailleurs, mais peut-être par inattention.
Mais depuis quelques mois, ils sont installés là, donc effectivement.
Mais est-ce que ces flyers, ces dépliants sont dans toutes les structures avec lesquelles vous êtes amené à travailler?
Oui, puisque moi j'interviens donc à préfecture Haute-Garonne. Et tous les premiers vendredis du mois, je suis à Naïou, à la maison France Service à Naïou, où là, on distribue régulièrement. Oui,
Les gens ne viennent voir que sur rendez-vous, peuvent arriver spontanément.
Ah non, sur rendez-vous uniquement.
Sur rendez-vous, vous régulez le nombre de rendez-vous.
Voilà, toujours dans mon cas particulier, au niveau préfecture, nous avons une secrétaire qui est une détachée de la préfecture, qui gère nos rendez-vous.
Et donc, lorsque vous allez défendre un dossier, prenez contact avec une collectivité locale, une administration, vous vous présentez comment? Comme le représentant défenseur des droits? Comment vous êtes reçu? Les gens savent ce que c'est, au moins, ou pas?
Nous faisons rarement une visite en présentiel. C'est surtout par mail ou par téléphone. Donc, oui, je me présente en tant que délégué du défenseur des droits.
Et là, la réception, c'est comment?
Elle est excellente.
Parce qu'on ne se dit pas un emmerdeur de plus.
Parce qu'ils le pensent, mais ils ne me lisent pas.
Non, puis c'est déjà bien.
Et je trouve qu'il y a une écoute assez favorable.
Et donc là, on arrive à régler le problème?
Ou pas, puisqu'on règle à peu près 80% des dossiers, à peu près.
C'est quand même un très bon ratio.
Voilà. Mais il faut quand même spécifier que parmi les requérants qui viennent nous consulter, il n'y a pas toujours un dysfonctionnement des services publics. Il n'y a pas toujours une discrimination. Il n'y a pas toujours...
Une incompréhension.
C'est aussi parfois une incompréhension. Dans ce cas, cela mérite une explication qui prend du temps, mais il n'y a pas toujours des dysfonctionnements de l'État, des services sociaux. Enfin, c'est souvent le cas. Voilà, donc il faut être très, très, très prudent. Ne pas être dans le jugement. Moi, je ne juge pas. Les requérants qui viennent nous voir disent « Oui, à la CAF, pour l'emploi. » Non, je dis « Non, je suis désolé. Non, moi, je suis issu de ce milieu-là, donc je ne peux pas vous permettre ça. »
Vous n'avez pas que des gens de la CAF ou de Pôle emploi, quand même,
qui viennent nous voir. Il y a quand même beaucoup de gens qui... Si.
C'est-à-dire que c'est quand même un secteur qui, socialement, reçoit beaucoup de gens déshérités à tout niveau.
Vous avez tout dit, absolument. Hein, tout à fait. Oui.
Et encore une fois, avec une législation très complexe.
Tout à fait. Mais en ce moment, il y a beaucoup de... Nous avons reçu une vague de personnes qui avaient des permis de conduire étrangers et qui voulaient faire le changement en permis français. Et depuis donc la numérisation de la procédure, en passant par la NTS, ça a occasionné des retards, importants. Donc les gens étaient désespérés, puisque certains, moi je me souviens plusieurs dossiers qui étaient chauffeurs poids lourds, donc n'avaient plus de permis pour conduire, donc ils étaient au chômage. Et alors que la demande avait été faite depuis plus de 6 mois, 1 an. Donc le fait que nous intervenions, que nous avons toujours des relais. Ça, c'est l'avantage, effectivement, du défenseur des droits. Nous avons des personnes adéquates à qui on peut s'adresser. Donc, quand le dossier est réellement justifié, on avait une réponse rapidement. Voilà, donc, et c'est vrai que là, le mot facilitateur était grandement justifié. Là, je vous rejoins tout à fait. Donc, et c'est vrai que j'avais eu droit à des remerciements, même étonné, parce que les gens, en me voyant, ne pensaient pas qu'on avait autant de pouvoir.
C'est vrai, quand vous voyant comme ça, on n'avait pas la cape.
Je suis assez simple.
Avec un grand Z dans le dos. Vous avez eu des cas de dossiers que vous avez fait remonter sur Paris, parce que véritablement, on était dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'enfance, le lanceur d'alerte, etc.
Très peu. Je dois en envoyer 3 ou 4 par an à peu près.
Et au niveau de l'enfance, de la protection de l'enfance, comment ça se passe? Justement, vous avez des dossiers là-dessus, vos collègues, vous êtes 13, vous nous avez dit, drôle de chiffre d'ailleurs.
Oui, il y a pas mal de dossiers.
Vous parlez entre vous, échangez.
Alors, je vais même plus loin. On en parle entre nous. Là, j'ai 2 dossiers très très sensibles. Je ne peux pas trop parler, mais c'est hyper sensible.
Mais nous avons
une animatrice, si vous voulez, pour le rapport du fonctionnement du département, qui était ex-médiatrice des enfants, Colette Guéraud, que connaît Madame Marie-Vignol, et qui, parfois, quand le dossier est un peu compliqué, on lui dit tu ne veux pas traiter le dossier. Voilà, donc, comme moi, par exemple, je suis référent handicap, donc. Quand mes collègues rencontrent certains dossiers au niveau du handicap, ils ne savent pas trop traiter. Mais ils peuvent traiter, c'est pas, il n'y a aucune obligation. Mais si ça ne va pas bien dedans, ils peuvent me transmettre.
Donc, écoutez, au niveau du handicap mental, j'ai des noms. Éventuellement, je pourrais vous les transmettre.
Vous me regardez avec insistance.
Par courtoisie, mais...
je vais donner rendez-vous à Mme Vignol, on se reverra.
Voilà. J'aurais justement une question à poser. À partir de l'analyse des cas pratiques, au-delà des cas particuliers qui sont essentiels, est-ce qu'une analyse permet à Mme Hédon de faire des propositions, ce qui fait partie de ses attributions au plan national d'amélioration? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples?
Oui. Le dernier exemple, c'est chaque année, il est établi au niveau national un baromètre des discriminations dans l'emploi. Donc, c'est la 10e année que ce document paraît. Effectivement, donc il s'avère que de plus en plus il y a des discriminations au niveau de l'emploi. Donc le défenseur des droits fait des propositions. Il y a des rapports sur les enfants également, donc au niveau des maltraitances, au niveau des violences. Récemment, en plus, je suis un peu concerné puisque d'autres occupations, je suis également vice-président d'une association tutélaire qui gère les majeurs protégés. Donc le défenseur des droits a fait une proposition de donner le droit de vote aux personnes aux majeurs protégés sous tutelle. Donc cette proposition, elle n'émanait pas uniquement du défenseur des droits, mais celui-ci l'a appuyé fortement, a été validé par le gouvernement. Donc aujourd'hui.
Et est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, vous remonte le fait qu'un organisme accueille pas convenablement le public, est-ce qu'il est envisageable qu'il y ait quelque chose qui redescende de l'ordre de remarque au niveau de la direction de cet organisme, ou même d'un service?
Oui, mais pas de la part des délégués. Ça remonte au niveau du défenseur des droits. Oui. J'ai quelques échos, mais il y a très longtemps, mais c'est rare, c'est tout de même rare.
Oui, il peut y avoir un retour de cet ordre-là.
Absolument, oui, tout à fait.
Au niveau du racisme, par exemple, je suis noir, je cherche un appartement, je fais une agence immobilière, une deuxième, une troisième, et très curieusement, on n'a absolument pas d'appartement à me proposer, ou de maison, de location. Si je viens vous voir, qu'est-ce qui se passe?
C'est un cas très fréquent, d'ailleurs.
Je le citais un peu à dessein.
Je rencontre souvent... récemment, j'ai reçu une personne, donc, mais c'était dans notre département. Mais j'ai quand même traité le dossier puisque la requérante était de toute douzaine pour l'instant. Et effectivement, donc, qui était handicapé, et à qui on refusait tout appartement.
Donc j'ai fait un courrier en demandant à l'agence pour quelle raison Madame X voyait s'opposer des refus systématiques à sa demande. Et j'aurais rappelé que l'article temps prévoyait discrimination. L'intéressé a reçu 15 jours après 3 propositions d'appartement.
Donc voilà, c'est l'efficacité du défenseur des droits.
Voilà, parce que c'était pas la menace voilée. On dit attention, là vous êtes hors la loi quelque part. Donc, mais quelque part. Les salariés connaissent qu'il y a discrimination, mais on tente le coup, on ne sait jamais.
Et dans un autre registre, il est beaucoup question d'améliorer l'accueil des femmes victimes de violences, par exemple. Est-ce que vous constatez cette amélioration ou est-ce que vous continuez à avoir des témoignages de femmes qui prouveraient que ce n'est pas encore tout à fait au point ?
Là, je vais avoir du mal à répondre puisque je n'ai pas rencontré de situation que vous évoquez. Je n'ai pas vu. Par contre, oui, je sais que des fois, j'en discute avec Madame Hiro qui est engagée dans ce domaine-là. Oui, il y a toujours effectivement des. Okay. Mais il y a davantage d'écoute. Voilà, il y a davantage d'écoute.
Oui.
Il y a autant de situations de violence, mais il y a beaucoup plus d'écoute. Après, est-ce qu'il y a des solutions ? Je ne suis pas convaincu aujourd'hui, mais ça se met en place lentement.
Un peu trop lentement, oui, mais bon. Quels sont vos rapports avec la justice ? Vous avez des rapports avec les magistrats, avec le parquet ?
Aucun. Non, puisque le défenseur des droits n'a pas le droit de contester une décision juridique, judiciaire. Donc,
mais il peut peut-être intervenir comme sachant auprès de certaines juridictions.
Certes, mais nous ne les voyons pas.
Est-ce que si j'estime que mon dossier est traité par trop lentement par la justice, vous avez un juge d'instruction, ça dure 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, il y a une magistrate qui vient de passer là très récemment, parce que c'était dans les quelques jours, devant le Conseil supérieur de la magistrature, où un justiciable va lui reprocher de ne pas s'occuper de son dossier, enfin, elle et deux autres, parce que je crois que ça fait 20 ans que ça traînait. Est-ce que si j'estime que mes droits ne sont pas traités correctement par la justice, est-ce que je peux aller voir le défenseur des droits ?
Oui, oui. Moi, j'ai eu des dossiers récemment donc, que j'ai réorienté à leur avocat, hein, puisque je suis désolé, ils avaient un avocat qu'ils payaient.
Grassement.
Je n'ai pas dit qu'il rémunérait.
Paye toujours grassement son avocat.
Avant de venir me voir, avant d'intervenir, je souhaiterais plutôt que vous consultiez à nouveau votre avocat, oui, oui.
Et si l'avocat est inefficace,
je n'ai pas eu le cas.
Bon, non, mais il peut arriver par extraordinaire, effectivement. Ou même que l'avocat lui-même, est constatant que ses moyens d'action arrivent à leur terme, vous envoie leurs clients, ou même certaines administrations disant « mon pauvre, on ne peut plus rien pour vous ». Ou alors on va se mettre nous-mêmes en risque, donc allez voir le défenseur des droits qui va attaquer l'affaire par un autre angle et qui peut-être vous permettra d'aboutir.
Oui, ça arrive relativement souvent dans le cas de d'étrangers qui réclament leur titre de séjour. Donc, les avocats donc, font des courriers auprès de la préfecture. Soit la réponse ne leur convient pas, soit la réponse est un petit peu longue à venir. Dans ce cas, ils orientent les requérants vers le défenseur des droits. Et c'est vrai que, pour ma part, toujours, hein, je veux pas généraliser, mais j'ai avec les services de la préfecture, services étrangers de la préfecture, d'excellents rapports et j'obtiens des rendez-vous justifiés, quand ma demande est justifiée, bien entendu, hein, donc assez rapidement. Oui. Donc, peut-être que la préfecture de Toulouse fait peut-être partie de l'exception, mais nous avons des résultats et mes collègues sont d'accord avec moi. Nous avons très bon rapport avec ces services-là. Oui.
Grâce à leur soir rendu, on fait une deuxième pause musicale, quelques mesures, parce que je vous ai demandé un choix, vous m'avez choisi un morceau d'un peu plus d'une heure, donc. Vous imaginez que nous allons un peu le réduire. Kate Jarrett, pourquoi ce choix ?
Ça a été le premier qui m'a initié au jazz, tout simplement. Donc,
alors, écoutez, si vous avez été initié au jazz par Kate Jarrett, nous écoutons l'initiateur. Thank you. Voilà, j'arrête le deuxième choix de mon invité Bernard Gallo, qui est un des représentants locaux du défenseur droit. Juste une question, mais après on va parler de l'organisation locale du défenseur des droits. Au niveau des centres de rétention, vous parlez de la préfecture, on parle des libertés, bien évidemment, défenseur des droits. Les centres de rétention, vous intervenez, on vient vous voir, on vient...
Non, c'est plutôt de mon avocat, ça. Effectivement, vous avez raison.
Oui.
C'est plutôt...
Mais peut-être que si un avocat considère qu'il est au bout de ce qu'il peut faire, que là, il ne voit vraiment pas comment. Et, ou qu'on lui met tout simplement, et la préfecture sait très bien le faire, même si vous en avez dit du bien, des bâtons dans les roues. Est-ce que vous êtes saisissable, si je peux dire, sur questions ?
Oui. D'ailleurs, je me souviens très, très bien, ça remonte à mes débuts. J'étais même médiateur, délégué du médiateur de la République. Intervenu pour, je me souviens, pour quelqu'un qui est d'origine turque, je crois, qui avait été en CRA, en CRA, de manière un petit peu arbitraire, a priori. Donc j'étais intervenu auprès des avocats, auprès du juge, il y a très longtemps.
Et ça
fonctionnait, puisque la fille, je me souviens, sa fille, il m'avait offert une superbe statue.
Alors,
je me demandais si elle était vraie ou fausse. Seulement, c'était beau. Oui, c'était beau. Je crois que c'est le seul cadeau que j'ai eu.
Vous voyez, vous avez des rémunérations directes. L'organisation locale. Alors, j'ai compris qu'il y avait. Vous êtes 13.
Oui.
13, alors, avec un chef de pôle.
Oui. Voilà. Ce chef de pôle. Romain Blanchard, tu m'écoutes, Romain, bonjour.
Faites passer vos messages.
Voilà, allez-y. Donc il est en fait responsable, oui. Mais il est salarié, lui est salarié.
Oui, donc il est dans le dispositif.
Tout à fait, il est salarié, mais ce n'est pas uniquement au niveau de Midi-Pyrénées, mais au niveau région Occitanie. Donc au niveau région Occitanie, il y a 57 à peu près, donc délégués. Il représente l'institution au niveau d'Occitanie.
Et c'est lui qui vous coach, si je puis dire,
pour
employer un mot occitan.
Oui, non, il nous représente. Il n'y a pas de pouvoir hiérarchique, je ne l'ai pas senti. Dans ses fonctions, ce n'est pas écrit non plus, donc moi je ne le ressens pas, parce que c'est un jeune garçon qui a 30 ans, 35 ans, donc qui est relativement jeune, mais qui apporte beaucoup d'aide. Un exemple, lorsqu'on a un dossier un peu compliqué, j'en ai actuellement, donc je ne sais pas si j'envoie le dossier à Paris, je sais qu'il y a des traitements qui sont beaucoup plus longs, donc j'hésite, soit je continue le traitement, soit je l'envoie à Paris.
Donc ça va être un appui technique
voilà,
aussi.
Je lui ai soumis le dossier, il me répond très rapidement, donc voilà, c'est lui aussi qui s'occupe du recrutement, puisqu'il y a parmi nous, il y a des gens qui y arrivent, donc ils partent, parce qu'il y a beaucoup de retraités.
Vous êtes désigné pour combien de temps ?
Alors, très bonne remarque, j'aurais pu l'évoquer, effectivement, on est nommé pour un an renouvelable.
Renouvelable. Donc tous les ans, on se repose la question du renouvellement. On trouve facilement des gens qui...
Vous soulevez encore une question très pertinente.
Oui, parce qu'il y a des institutions, il y a des bénévoles. On évoquait tout à l'heure au tribunal de commerce, on sait qu'on a parfois un peu de mal à trouver.
Sans tailler un secret, pardon Romain, si tu m'entends. on a eu du mal à recruter un délégué sur le Lot, puisque... La délégation actuelle.
Il n'y a pas de problème dans le Lot, tout se passe très bien.
Il n'y a pas de problème. J'ai vécu longtemps, donc j'ai apporté la bonne parole peut-être.
Un département fabuleux où tout est fluide. Tout est fluide.
J'ai beaucoup aimé, c'est vrai.
Donc on a quand même du mal à recruter. Et les gens, alors on voit votre profil, vous avez quelques cheveux blancs, donc j'imagine que vous êtes à la retraite.
Depuis longtemps.
Comme Jospin, oui. Vous êtes à la retraite, mais est-ce que tous vos collègues sont retraités ou est-ce que c'est une fonction qui est compatible avec un travail à temps plein et une vie de famille exigeante ?
En théorie, c'est compatible. Mais les 95% parmi nous sont retraités. Je peux citer le cas d'une personne qui n'était pas retraitée, qui était salariée dans un organisme départemental ou régional, et parce qu'il y a la possibilité soit de faire cette activité à temps plein, c'est-à-dire une permanence par semaine, soit de faire une demi-journée. Donc, j'avais préconisé, puisque je connaissais bien la personne dont je parle, puisqu'elle souhaitait à tout prix connaître l'aventure des délégués de défense des droits, d'accepter une demi-journée de permanence, ce qu'elle a fait, qui a été acceptée aussi par Paris. Donc, c'était pour montrer qu'on peut être délégué sans être retraité.
C'est quand même très difficile, vu les demandes, vu la complexité de certains dossiers. et le temps qu'il faut y passer,
mais effectivement, vous avez raison.
Ça me paraît
puisque
très compliqué.
Au bout
compliqué.
De deux ans, elle a démissionné. Vous avez raison.
Oui. Donc elle n'a pas tenu. Donc ça veut
elle
dire que finalement, le système est fait pour des retraités qui se veulent actifs.
Et... Normalement, non, mais en pratique, plutôt, oui, je vous rejoins. Oui, effectivement.
C'est peut-être une des faiblesses du système. Non pas que les retraités ne puissent pas... exercer, mais...
Vous savez, non, je ne sais pas si c'est une faiblesse.
Bah, il faudrait salarier.
Puisque, bah, oui, ça, nous sommes bénévoles, je vous rappelle. Donc, si on n'a pas un revenu ailleurs...
Mais c'est peut-être là que le système pêche un peu. Est-ce qu'on se donne les moyens de la défense? Alors après, c'est une question politique à laquelle vous n'allez pas
répondre.
Moi, je dirais oui. Je dirais oui, par expérience, pour le travail que nous avons mené ensemble, il y a une efficacité réelle. Moi,
je suis
convaincu de l'efficacité des délégués du défenseur des droits.
Je parle également pour mes collègues, qui sont spécialisés dans certains domaines, ils sont efficaces. Oui.
C'est un travail énorme. C'est vrai.
L'efficacité n'est pas en doute, et même on sait d'ailleurs que dans ces deuxièmes vies ou deuxième métier ou troisième métier, d'abord vous avez l'avantage de l'expérience, du recul et d'une certaine sagesse, et ça c'est fondamental.
Absolument, je retiens ce terme, effectivement.
Et puis peut-être aussi d'une certaine sérénité, parce qu'il n'y a pas de pression, donc vous avez peut-être la qualité de service que vous n'auriez peut-être pas dans un autre cadre.
Tout à fait d'accord avec vous.
Pour autant, on ne se donne pas toujours les moyens de la justice en France. Nous avons quand même la justice, les moyens de la justice les plus bas, les plus désastreux de toute l'Europe aujourd'hui.
Oui, mais tout petit bémol, le défenseur des droits avait fait un rapport, c'était sous Jacques Toubon, je crois, au niveau des défenseurs des droits au niveau de l'Europe. D'ailleurs, j'avais assisté à une rencontre, c'était à la fac de droit, où il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens, des Portugais, des Anglais. Effectivement, mais le défenseur des droits français, avec ses 570 délégués de proximité...
Il n'était pas ridicule.
Il n'était pas du tout ridicule. Voilà, donc je ne veux pas défendre la maison.
C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire qu'il y a aussi dans les pays européens ce même type d'institution, qu'il y a donc des rencontres, des échanges. Et alors, quelle est la différence? Est-ce que tout le monde fonctionne à peu près pareil au niveau des compétences et des moyens d'intervention?
Non. Je parle d'Espagne, puis c'était une rencontre avec l'Espagne. C'était l'Espagne, il y avait des salaires beaucoup moins de personnel, mais salariés, qui étaient salariés, dans des villes, donc, mais ils ne traitaient pas le même titre. Vous savez, parce que nous avons un concurrent, parce que nous traitons, nous, tout ce qui est, donc, au niveau des réclamations des services publics, il y a le conciliateur de justice, qui traite tout ce qui est litige privé. D'ailleurs, vous pourriez, effectivement, faire une émission avec un conciliateur de justice, il y a des gens très intéressants, et le médiateur espagnol, qui s'appelle, je ne sais plus le terme exact en Espagne, mais gère les deux activités, à la fois secteur privé et secteur public.
Donc, remarquez, avant qu'on regroupe sous le nom de défenseur des droits les cinq autres institutions, c'était un peu pareil, c'était très morcelé.
Oui, mais tout ce qui était litige privé n'était pas traité déjà, c'était déjà les conciliateurs de justice qui traitent ça.
Oui, je sais que la justice étant tellement chargée, elle aime bien que certains la rendent. Je ne vais pas dire au rabais, ce serait déplaisant pour ces gens, mais c'est vrai que...
Ceux que je connais sont très compétents.
C'est pas un problème de compétence, mais souvent...
qui sont impliqués dans leur mission. Je ne les connais pas tous, mais ceux que je côtoie régulièrement sont bien impliqués, je peux le dire.
Bon, je crois qu'en synthèse, on a compris que le défenseur des droits était quand même une institution peut-être un peu méconnue, me semble-t-il, mériterait d'être beaucoup plus utilisée, parce qu'il y a quand même des moyens, il y a des compétences, il y a de la volonté de faire aboutir les dossiers. Sur Paris aussi, sur des dossiers un peu plus complexes, techniques, certains diraient chauds. Donc, il y a le personnel qu'il faut. Donc, voilà, le défenseur des droits, allez-y, vous saisissez-le, allez les rencontrer. Merci Bernard Gallo, merci Anne-Marie Vignol.
Mais avec grand plaisir.
D'avoir passé cette heure avec nous, nous avoir un peu permis d'approcher cette institution. C'était Cap à Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique Tiffaine Lemaine, que je remercie.
Merci.
Et bien sûr, vous allez retrouver le podcast de cette émission sur le site de la station d'Esprit Occitanie avec tous ses autres petits camarades podcast. Bonne semaine à toutes et à tous.